Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
J'ai lu des extraits, j'ai jamais lu un entier.
Je commence au début des deux points.
Alors, Hippocrate. Au moment d'être admise à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité.
L'oreille interne.
Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir
la santé. Dans tous ses éléments, physiques et mentaux.
Physiques et mentaux.
Individuels et sociaux.
Individuels et sociaux.
Une création sonore originale, Canal+.
Mais c'est un peu sacrilège, parce que normalement, je suis censée le lire pour ma thèse et tout. Je sais pas. Tu vois, au moment d'être admise à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. Ça, c'est, je le ferai plus tard, quoi.
Épisode 1.
Parce que je suis pas encore admise à exercer la médecine.
Des internes, des spés, des clichés. Urgence de l'hôpital Beaujon, Clichy. Tôt le matin.
J'arrive au staff de la réunion du matin, où on discute de tous les patients qui sont encore présents physiquement aux urgences. Et après, en général, soit les premiers patients sont déjà là, soit ils commencent à arriver. Et donc soit t'attends de boire un peu ton café, soit pas. Tu vas voir ton premier patient. Et c'est ça au fil de l'eau.
C'est vous ? Mais je vous ai déjà vu ? On se connaît ? Ben oui, mais je crois que je vous ai déjà vu. Ben oui. On prend ça ? Venez avec moi. Là.
D'accord.
Merci, monsieur. Allez-y, asseyez-vous. Vous pouvez ou pas ? Ou sinon, il y a la chaise là. Oh, attention, attention. Il y a la chaise là. Venez.
Je m'appelle Elodie.
La chaise là, ça sera peut-être plus simple.
J'ai 25 ans.
Ça va aller ?
Je suis médecin urgentiste en FASOC, donc en premier semestre. Et j'exerce actuellement à l'hôpital Beaujon à Clichy. Et c'est trop cool.
Bon, alors, racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça veut dire quoi, un malaise ?
Ben, je ne pouvais plus rester debout, je suis
Vous vous êtes évanoui, vous avez perdu connaissance complètement,
non,
ou pas
trop ?
C'était déjà ça la dernière fois ?
Oui.
Ok, levez le genou comme ça. On l'a déjà fait ensemble, pareil de l'autre côté.
C'était pas.
Allez-y, levez-le sans moi. Levez le genou comme ça.
Comme ça.
Levez les pieds et les orteils tout vers le haut comme ça, et on reste bloqué. Tout vers le haut, et on reste bloqué. Moi j'appuie, vous résistez. Vers le bas comme une danseuse.
C'est trop bien, c'est, tu vois, c'est exactement ce que je voulais, c'est voir des gens différents tous les jours, c'est tu passes d'un patient qui vient pour, je sais pas, un mal de ventre banal parce qu'il a mangé un grec qui avait tourné il y a deux heures. Et tu lui dis, bah écoute, rentre chez toi et si jamais ça passe pas, reviens me voir. Mais a priori, on n'est pas inquiet. À la mamie de 80 ans qui est tombée à la maison ou à son EHPAD et qui s'est fracturée le col du fémur. Et qui ne peut plus marcher, à qui il va falloir mettre une prothèse.
Comme ça.
Ou à l'accident de la route que tu vas devoir passer en réanimation. Et ça qui est trop cool. Je ne sais jamais de quoi ma journée sera faite.
Tirez la langue. À fond.
Allez-y, personne ne vous voit. Enfin, sauf moi. Allez-y. Faut que je vois si la langue, elle descend droit. C'est pour ça que je vous pose la question.
D'accord.
Moi, je trouve que quand tu es urgentiste, tu te sens vraiment médecin.
Ça va ? Sans stress. Vous entendez des deux côtés ?
Oui.
Serrez les yeux très fort. Ok. Montrez-moi toutes les dents. Regardez-moi.
Mais pas beaucoup.
Bon, c'est déjà pas mal. Alors.
Dans ma tête, un médecin, c'est exactement ça. C'est le médecin qui sait soigner un peu le tout venant.
Bah, En plus, vous tombez souvent, il faut faire attention à votre santé, madame. Allongez-vous, je vais regarder le ventre.
Alors, il n'est pas parfait. On ne sait pas soigner les trucs très pointus. C'est pas nous qui allons trouver une solution miracle à tes maux de tête qui durent depuis 5 ans.
Laissez-vous faire toute molle la jambe.
Mais par contre, si t'es tombé en skate et que tu t'es fait mal, on va être capable d'identifier est-ce que potentiellement tu t'es fracturé la cheville ou est-ce que t'as juste une entorse. Dans ce cas-là, tu mets du froid dessus, tu l'élèves pendant 15 jours et ensuite t'iras faire une radio. Tu vois.
Bon, c'est pas mal hein, tout ça quand même. La seule chose, c'est que regardez-moi, faites comme ça, bout du doigt sur le bout du nez. Et on tend l'autre main. Ok. Bon, vous allez pouvoir vous asseoir et vous rhabiller. Je vous laisse remettre le petit pull. L'examen, il est bien. À chaque fois, moi, c'est déjà la deuxième fois que je vous vois. Et quand on regarde votre dossier, vous passez aux urgences toutes les 3 semaines, quoi. À peu près, c'est quand même difficile à vivre, non?
Ben oui.
Ben je me doute. Faut faire quelque chose, là. Qu'est-ce que vous en pensez?
J'attends tout le temps.
Oui.
Ouais, je reste pas peur, j'attends pas.
Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous attendez de nous? Pourquoi vous venez nous voir aux urgences? Dites-moi.
Pour me soulager, parce que
pour vous soulager de quoi?
Moralement. Déjà, ça me fait un peu bien. Je sais, je peux pas vous répondre.
Vous avez mal où, là?
Non, c'est mon épaule qui m'a
fait votre mal.
Quand ton corps faillit.
Ma réponse, c'est qu'il faut être hospitalisé.
C'est un peu la panique, quoi.
C'est ma réponse.
Et t'as besoin que quelqu'un t'aide. Et quand tu as la chance d'être cette personne et d'apporter l'aide et de répondre à ce besoin-là, moi, je trouve que c'est le cœur de notre métier aussi, tu vois.
Je l'appelle.
Je sais pas, genre, moi, j'ai toujours cette idée que quand le médecin, il arrivait sur place, c'était un peu genre Superman qui arrivait, tu vois.
Je peux l'appeler.
Et c'est un peu ce fantasme-là en me disant, vas-y, trop stylé, genre quand t'arrives, tout se dénoue d'un coup, tu vois, genre tu trouves la solution à tous les problèmes et tout, ce qu'il faut. Mais sur le coup, tu vois, ça me faisait bien rêver.
Ok, je vais l'appeler et je discute avec elle et puis en attendant, on fait le scanner. D'accord.
Oh, mais c'est beaucoup trop petit.
Ça pile, c'est tiens.
Non, madame. Allez, faites vite, madame, parce qu'il est tard. Hein. Allez-y, cherchez-nous votre traitement. Et
vous examinez. Je vous examinez.
Là, on est dans la grande cour de l'hôpital Lariboisière.
Hôpital Lariboisière, Paris.
La rue Ambroise-Paré.
15h.
On va franchir la grande porte, qui est déjà un hall qui se répartit sur tout l'hôpital. Et donc, excuse-moi. Ouais. Ouais, Thomas. Non, mais dis-moi. Et c'est, tu sais que c'est un groupe 1 ou un groupe 3? Enfin, on sait un peu si c'est... Ah, ok. Avant l'identification de l'espèce. Du coup, tu mets quand même Méro, et si c'est un colis, on changera pour Tazo éventuellement. Ok. Bon, écoute, pour la garde, je le saurai. Je vais passer et lui transmettre après. Ok, à toutes. Les bruits en réanimation, c'est hostile. C'est hyper hostile. Ça, c'est l'alarme pour dire qu'il y a c'est une sorte de préalarme. C'est pas encore l'alarme critique, mais il est déjà sous un seuil pré-critique, voilà. Ça, c'est le bruit d'un capteur qui est déconnecté. Que ça soit un capteur pour la fréquence cardiaque, pour la saturation en oxygène. Un capteur déconnecté, ça veut pas dire que ça va bien. Hein. Si ça mesure plus rien, c'est peut-être bien, c'est peut-être pas bien du tout.
Ça, réanimation médicale.
Et ça, là, c'est l'alarme dite critique. Et quelqu'un a dû soit corriger la saturation, soit arrêter cette alarme, ce qui est dans la chambre. Voilà. Mais c'est déjà très hostile comme bruit. Le bruit sature, je pense, nos facultés auditives. Quotidien, ça.
Bonjour.
Je m'appelle Nathanaël. Je suis interne de réanimation à Paris. Oui. Je suis en cinquième semestre, donc c'est en fait la troisième année de l'internat.
Vous avez appelé quand pour la dernière fois, madame ?
Je suis en stage à la Pitié-Salpêtrière actuellement.
D'accord. Qu'est-ce qu'on vous avait dit ? Qu'est-ce que vous aviez compris ?
Il se trouve que de par la situation sanitaire un petit peu exceptionnelle, je prête aussi main forte dans le service de réanimation médicale et toxicologique à la Riboisière. Et donc c'est là où se déroule la suite des événements.
Mmh. Ils ont plus pardon ? Très bien, donc effectivement, voilà, c'est ça. Il y a une hémorragie digestive qui a été en tout cas tarie par quand ils ont fait la fibroscopie. Néanmoins, ce qu'on se rend compte, et c'est l'impression qu'on avait déjà au début, c'est que l'ensemble des organes, quand même, ils sont très défaillants. Le cœur, il nécessite toujours d'être aidé par un médicament qui l'aide à se contracter. Deuxièmement, il y a le foie, on voit bien aussi qu'il fait son travail un petit, au ralenti. Et tout comme le rein. Donc son état global, il nous inquiète toujours autant, en tout cas.
Avant Covid, les gens ne savaient pas trop ce que c'était la réanimation. C'était un truc où apparemment les patients sont graves. Voilà. Ça me convenait très bien comme ça.
Je pensais qu'il y avait un autre appel. Bon. Oui ? Allô ?
Un réanimateur, c'est un médecin censé corriger les défaillances d'organes aigus que peut présenter un patient pour différentes raisons. Il fait une infection grave du poumon qui va se disséminer, ou pour un gros accident de la route qui a nécessité de refermer les fractures et d'aller ouvrir le ventre pour clamper une artère qui saignait, et il doit être ensuite pris en charge par un médecin réanimateur.
Ça, tu la mets soit sur la médiane, soit sur la distale, comme tu veux.
Ok. C'est bien juste que tu réouvres un peu pour me dire si c'est... Là, c'est surtout de ne pas arracher la sonde d'intubation.
Allez. En réanimation, s'il y a un organe qu'on ne peut pas suppléer, je dirais que c'est le cerveau.
Et on va se faire un peu, peut-être...
On peut suppléer tous les autres organes vitaux, au moins temporairement, avec des machines plus ou moins lourdes et qui sont... jamais dénué de complications, mais c'est comme, en fait, comme l'ensemble de la pratique médicale, c'est que tout bénéfice va de toute façon mettre en perspective des risques. Dès qu'on met cette notion de pouvoir tout suppléer, on a l'impression effectivement de pouvoir jouer, donc ça veut dire avec la vie, avec la mort. Et rien que le mot, déjà, c'est-à-dire on peut jouer. Ça sort de tout contexte médical. Donc,
les robinets, c'était purgé ou
En tant que jeune interne de réanimation, forcément qu'il y a cette notion-là, effectivement, est un peu effrayante.
Voilà, moi, c'est branché. Tu me dis une fois que c'est bon pour toi, tu déclenches, qu'on passe pas une pression proximale. Et puis, t'es gadère ? Ok.
Hôpital psychiatrique Valvert, Marseille.
Je m'appelle Morgane, j'ai 28 ans, je suis interne en psychiatrie à Marseille. Donc, j'ai commencé ma dernière année d'internat.
Ici, les services sont des noms de fleurs ou de plantes.
Je termine en mai 2022. Je serai psychiatre.
Les cèdres et les lavandes. Bon, nous, on est au CAC, c'est pas un nom de... C'est le centre d'accueil de crise et de consultation. Carré
voulais déjà te poser ça, comme ça.
Alors en ce moment, je suis dans un service d'accueil de crise et de consultation. Et c'est un service qui gère majoritairement la crise suicidaire. Les patients qui viennent chez nous viennent dans un moment de crise, avec parfois une histoire de vie qui est déjà compliquée et une accumulation d'événements qui font qu'aujourd'hui ça craque. Donc c'est souvent des histoires plutôt difficiles, des choses auxquelles on peut s'identifier plus facilement à ces patients-là qu'à des patients qui sont complètement délirants, par exemple. Je trouve que c'est important en psychiatrie d'être authentique en face des patients, parce que finalement, c'est comme ça que les personnes sont en confiance, qu'il n'y a rien qui peut nous trahir. Et à m'entendre, j'ai pas l'impression d'être si différente que dans ma vie de tous les jours, que ce soit avec mes amis, avec ma famille, avec mes collègues ou avec les patients.
Comment ça va depuis la dernière fois ? Comment se sont passés ces petits 3 jours de vacances ?
C'est beau, la montagne.
Ouais. Quelle question poser à un patient qui est très suicidaire ? Ça, c'est un petit peu quelque chose qu'on gère au fur et à mesure.
C'est venu bien après et je me suis dit... Au début, je sais que c'est...
Quelque chose de primordial en psychiatrie, c'est le risque suicidaire. C'est l'urgence ultime à éliminer.
Mais après, le lendemain, je me suis dit pourquoi l'insuline, elle n'a pas marché. Voilà. Ouais, j'avais pas envie de recommencer, mais je me dis juste pourquoi l'insuline, elle n'a pas marché.
Ouais, comme la dernière fois, il y avait une situation...
Mais là, c'est encore pire. J'y pense limite tous les jours. Pourquoi elle n'a pas marché?
Oui, donc cette tentative de suicide à l'insuline, c'est vraiment...
On n'ose jamais trop aborder le sujet, sauf qu'en fait, au fur et à mesure, on apprend qu'il faut clairement poser la question aux personnes qu'on a en face de nous.
C'est ce que je vous ai dit la dernière fois, et les gens qui sont jamais heureux, et j'en fais partie.
Donc là, vous êtes un peu sur une période où vous n'avez pas d'éléments qui vous empêchent vraiment...
Non, mais bizarrement, je ne le fais pas. Je ne sais pas ce qui... Mais j'arrive pas à déceler, mais je ne le fais pas.
Peut-être parce que vous avez envie de vous sortir de tout ça.
Je sais pas. Je sais pas. Ouais.
C'est difficile à expliquer, la psychiatrie, c'est assez abstrait. Moi, je sais que je parle beaucoup de la vie des patients... Je trouve que c'est presque comme un roman. C'est quand on a un patient en face de nous, on n'a pas juste le patient qui est pas bien à ce moment-là. On a le patient avec tout son vécu, toute sa vie, qui explique pourquoi il est pas bien aujourd'hui. Et en fait, c'est intéressant de pouvoir aider les gens en s'intéressant vraiment à toute leur vie.
On fait des mots un peu longs. En psychiatrie, du coup.
On va avoir un petit thé, ensuite on fait le tour et ensuite on va manger.
Ouais, la psychiatrie c'est médical parce que la santé mentale c'est... Enfin, je vois pas comment on peut dissocier la santé mentale de la médecine, c'est tellement important. Les troubles mentaux, ça peut avoir des répercussions sur le corps, et le corps peut avoir des répercussions sur des troubles mentaux. Donc il n'y a pas l'un sans l'autre, ça n'existe pas. Et la santé, de manière générale, c'est défini par l'OMS comme un état de bien-être physique, mental et social. Tout est lié, on ne peut pas séparer les deux, c'est pas possible.
Marine, on y va ?
Maternité de l'hôpital Necker.
Bonjour monsieur, bonjour madame.
Paris.
Je m'appelle Charlotte, je suis l'interne de garde, je suis un des médecins du service.
Minuit.
Donc Marine, elle m'a appelée parce que votre bébé, c'est un garçon ou une fille ?
C'est
donc cet enfant, farceur, regarde vers les étoiles. Donc il s'est couché sur le dos pour faire un plongeon arrière, ce qui n'est pas la meilleure moyen de naître. Donc idéalement, on voudrait le retourner dans le bon sens avant de s'installer pour l'accouchement, parce que ce sera plus facile pour vous après pour pousser, etc. Donc c'est ça que je vais faire. Qu'est-ce que c'est un gynécologue?
Alors, je commence par vous examiner.
C'est un médecin de la femme.
On est un tout petit peu haut pour moi.
Il y a la partie gynécologie, la partie obstétrique, c'est deux choses différentes. La gynécologie, c'est le médecin de la femme, tout le temps. Et l'obstétricien, c'est le médecin de la femme quand elle est enceinte, c'est-à-dire pas toutes les femmes et pas toute leur vie.
Moi, j'ai l'oreille, j'ai la nuque. Donc, je pense qu'on est bien là.
Une femme, de nos jours, elle accouche une fois, deux fois, trois fois, peut-être quatre, mais rarement plus. Donc, c'est des moments uniques et... Et toi, t'en fais trois ou quatre par jour. Et donc, arriver à se souvenir qu'il faut faire extrêmement attention à ce que ce soit un moment unique et qu'elle n'ait pas l'impression d'être un numéro dans ce qu'on attend ta journée, c'est hyper important. Moi, je trouve que c'est un effort encore pour moi. À chaque fois, de bien me mettre dans le truc et de pas être machinelle.
Je vais aller chercher l'écho pour être sûre. Ouais, mais je suis sûre de moi, en fait.
Ah, bon, génial.
Du coup, pas besoin de mes services. Je vais juste vérifier l'échographie, mais je pense qu'on est bon.
Moi, on m'appelle sur un accouchement que quand il y a un problème.
Ah, très bien. Voilà.
On confirme que mes services sont inutiles. J'ai peur de moi. Pourtant, je suis sympa, hein.
On m'appelle et je fais quelque chose et après il n'y a plus de problème. Ou alors le problème est encore plus grave, mais j'espère que ça arrive pas souvent.
Mais c'est pas trop problème. Allô? Oui? C'est toujours Charlotte, c'est bon.
J'arrive tout de suite.
Me voilà.
À tout.
Coucou.
Ça va?
Ouais. Du coup, je m'appelle Charlotte, je suis interne de gynéco-obstétrique. J'ai 27 ans, je suis en 4e année d'internat sur 6. Je voulais apprendre à vraiment bien faire de l'échographie obstétricale, donc c'est les échographies des bébés. Et donc c'est pour ça que je suis venue dans ce stage surtout, parce qu'on fait beaucoup d'échographie.
Alors montre-moi le cœur. Ouais, ça bouge.
Alors là, on a la petite tête.
C'est quelque chose de nouveau pour moi, que je fais pas depuis longtemps. Et enfin, je suis pas encore 100% à l'aise, ça me stresse un peu.
C'est le cas. On voulait qu'on écoute, ça va vous soulager peut-être. Hein. Hop. Ça va, vous nous croyez?
Globalement, ce que je trouve très dur dans les échographies de dépistage, donc c'est les échographies de première ligne, c'est que la plupart du temps, tout va bien et c'est un moment qui est hyper agréable.
Vous voulez qu'on écoute encore un peu?
Et tu peux découvrir des choses vraiment pas agréables. Et donc, les parents, ils sont très angoissés quand on va à la échographie.
Mais en tout cas, c'est pas du tout inquiétant. Moi, je vois rien de spécial.
Et je trouve ça hyper dur d'être complètement rassurant. Ou alors, tu annonces des trucs qui font des cataclysmes dans la vie de quelqu'un. Et donc, tu peux pas trop te permettre d'avoir un doute. Parce que soit tu dis que tout va bien, soit tu dis que t'as un doute. Mais quand tu dis que t'as un doute, tu vas créer une angoisse énorme.
Je regarde juste du coup la croissance, comme vous êtes là, même s'il n'y a pas de raison particulière. Mais...
Quand t'es interne, t'as tout le temps le droit d'avoir des doutes.
Il fait la bonne taille. Hein.
Vu que t'es pas diplômée et tout, et si t'as un doute, t'appelles ton chef. Mais tu sais qu'à partir du moment où tu vas appeler ton chef, le patient il va se dire « Ah, il y a un problème », et ça les angoisse vachement.
C'est 287 grammes. Alors après, c'est très approximatif.
287 grammes,
c'est ça. Voilà, franchement, c'est vraiment petit. Hein. Ça, c'est le son de ton cordon ombilical, ça passe très bien.
T'as quand même cette peur d'avoir raté quelque chose, même si t'as tout bien fait.
Et voilà, on va s'arrêter là.
Merci.
Merci. Merci.
Mais je pense que c'est aussi lié au fait que j'en fais pas depuis très longtemps et du coup je me sens encore en train de tâtonner.
Alors, je vous fais un petit compte rendu et puis vous pouvez y aller. Tu te réserves un truc pour le déj?
Non,
il y a la tarte au sud.
Je crois que c'est un piège. Ce n'est pas que aux tomates.
Anna, elle enregistre du son pour un podcast sur la vie des internes. Vaste sujet.
Oui, ok, alors si en plus on prend les internes d'obstétrique, c'est un peu ceux qui ont la vie la plus dure.
Je suis pas d'accord en vrai.
Je vous laisse discuter.
Vu de loin. Ciao.
Moi, je pense pas que ce soit l'internat le plus éprouvant. Et oui, je fais beaucoup de gardes, c'est un pli à prendre. Mais c'est des moments un peu spéciaux, où c'est une ambiance vraiment particulière. Et puis je pense qu'il y a des spé aussi où ils travaillent pas beaucoup, mais peut-être qu'ils s'ennuient. Enfin non, je pense pas. Tu trouves forcément des trucs sympas à faire.
C'est un dessin de Vite Carabin, où il y a toutes les spé.
Une page où il avait fait un peu la caricature de chaque spécialiste.
cliché numéro 1.
L'urgentiste, quand tu le vois...
L'urgentiste.
Il court partout. Il fait pas propre, visuellement. T'as pas l'impression qu'ils prennent vraiment soin de lui ou d'elle.
Ils veulent des lits partout.
C'est quelqu'un de fatigué.
C'est en général quelqu'un qui parle très vite. Souvent.
Les urgentistes, t'as des vrais passionnés du soin.
Et des fois, sur ton pyjama, t'as des traces de trucs. Genre du plâtre, de la bétadine, des fluides, du sang.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les urgentistes, ils ont du taf.
Cliché numéro 2.
Ah ouais, les orthos. Les orthos...
L'orthopédiste.
Ah bah oui, bah ça c'est connu que les orthopédistes sont quand même très grivois.
Il y a ortho et ortho.
Potache, salace...
Il y a les orthopédistes qui sont très grivois.
Chatcher, un peu beaucoup dragueur, oui, bien sûr.
Et moi, ce que je trouve surtout sur les orthopédistes, c'est qu'ils sont un peu violents quand même.
Les orthopédistes sont des bourrins. ça revient beaucoup.
Ils attendent pas forcément que la morphine soit poussée jusqu'au bout, tu vois. Avant de faire certains trucs. Et moi, ça me stresse un peu.
Cliché numéro 3.
Le cardiologue, il a une chemise rouge avec le col qui est bien sorti, bien en évidence.
Le cardiologue.
C'est des chemises, c'est des chaînes en or, c'est des bagues au doigt.
Il y a une légende urbaine qui dit que les cardiologues se la pètent de ouf.
Les cardiologues se prennent pour Dieu.
Je sais pas, non, moi je sais pas d'a priori sur les psys.
Le psychiatre.
Moi, je trouve ça un très beau métier.
Les anesthésistes réanimateurs, c'est des gens qui aiment pas se faire chier.
L'anesthésiste réanimateur.
Moi je trouve que, après c'est personnel, mais je trouve que les réas, ils sont toujours d'une zénitude exemplaire. Alors, c'est, tu vois, le maître dans Kung Fu Panda, là, le chat qui est hyper zen, le maître, je sais plus comment il s'appelle. Bref, un espèce de mage. Qui flotte au-dessus des nuages.
Qui fait du kitesurf, du ski de rando, de la voile.
Effectivement.
Parce qu'il a de la thune, du temps et il aime bien l'adrénaline.
Je trouve que moi je fais pas mal de sport et parce que je trouve que c'est un échappatoire.
Je suis en train de sortir plein d'énormes clichés, mais bon, voilà. Et après, comment on perçoit dans l'hôpital comme des gros bourrins, je crois.
Le gynécologue obstétricien.
Il y a beaucoup de gens qui disent que l'internat gynécologique c'est le plus dur et que quand on choisit ça, c'est qu'on est un peu staccano.
Quand tu vois un gynéco, tu dis « Ah ouais !»
Moi, je trouve pas.
Les obstétriciens, ils ont l'air très fatigués quand tu les vois.
Pour être gynéco, il faut en avoir sous le coude. Hein.
D'ailleurs, j'ai l'impression que leur spécialité n'est fait que de garde.
Les gens disent ça parce qu'on fait beaucoup de garde.
Et je trouve qu'ils ont beaucoup de mérite. Je pense que globalement, c'est un peu ce qui se dit sur la gynéco. C'est vraiment difficile. Et c'est hardcore.
Son rendez-vous de cas pour la mi-mardi. Hein.
Ouais,
tu l'as mis dans son dossier. Parfait, je vais lui expliquer. Allô?
Ouais, j'arrive.
Je vais en salle. Tu veux la partie
si
tu
veux. Ah non, la dame qui arrive à 4 cm.
Bonjour.
Tiens.
Alors, ce farceur décide d'être vraiment farceur?
1, 2, 3, on y va. Tiens.
Ça fait 5
minutes que l'on
tourne.
Donc,
je vais
déclarer un petit peu comme ça, ma collègue va
pouvoir
vous examiner.
Du coup, c'est de nouveau moi, on s'est dit tout à l'heure. Je m'appelle toujours Charlotte, je suis toujours le médecin de garde. Là, on m'appelle pour une chose différente de tout à l'heure. C'est votre bébé, c'est une surprise. Même si vous poussez très bien mes marines, elles ne sont pas assez bien dans la filière du vagin. Donc, je vais examiner. Là, ça fait déjà 35 minutes que vous poussez. Son cœur, ça va. Donc, il tolère bien les efforts, il tolère bien là où il est. Mais ce n'est pas non plus exactement parfait. Ça veut dire qu'on ne peut pas lui laisser non plus trop de temps, entre guillemets, un peu coincé dans cet endroit-là du bassin. Donc, c'est possible que je dois vous aider en utilisant des instruments. Ok. Je vous explique tout ce que je fais. Déjà, je vous fais une idée de la situation, puis après, je vous explique.
Ok. Donc, toujours de la même façon, d'accord?
Quand il y a un truc où on met la pression avec une situation de stress, ça me galvanise plus que ça me paralyse. Et c'est typiquement le genre de sujet où ce genre d'attitude est utile. Les patients, ils vont bien en fait. Tu prends en charge une grossesse. Une grossesse, c'est une maman qui va bien et un bébé qui va bien. C'est assez agréable parce que dans ta vie quotidienne, il se passe quand même plein de choses hyper belles et joyeuses. Et non pas un service où il n'y a que des vieilles personnes qui souffrent. Je pense que ça aurait été trop dur pour moi.
Ouais. Ok, on lâche. On reprend plein d'air et vous retournez tout de suite. Allez, encore.
D'un autre côté, c'est de la pression. Ça veut dire que tu peux pas faire n'importe quoi parce qu'en fait, ils vont bien, tes patients. Donc clairement, s'il y a quelque chose qui se passe mal, c'est de ta faute, quoi.
Ok,
femme enceinte, elle n'est pas censée mourir à la fin ou avoir des séquelles. Elle est enceinte avec son bébé et à la fin, tout le monde va bien. Et toi, ton rôle, c'est de faire en sorte qu'à la fin, tout le monde aille bien.
Encore.
Et du coup, quand ça se passe pas comme ça, c'est d'autant plus un cataclysme parce que c'est pas du tout attendu dans la marche des choses.
C'était le premier épisode d'Hippocrate, l'oreille interne, une création sonore Canal+. Dans le prochain épisode, Charlotte devra décider d'intervenir ou non sur cette naissance, et nos quatre internes reviendront sur leurs souvenirs de carabin. De Grey's Anatomy au choix d'une vie, du premier stéthoscope à la dernière gueule de bois. Hippocrate, l'oreille interne, est une série en 5 épisodes, écrite par Anna Buy et réalisée par Clément Nouguier, à retrouver sur MyCanal et toutes les plateformes de podcast.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.